Moi, je m'en vais, hein, mais je rêve le jour où on aura davantage de moyens pour juger les atteintes au droit pénal à l'environnement. Je rêve d'un vrai rôle du juge et je rêve véritablement d'un procureur qui sera en charge d'un ordre public environnemental dans lequel il pourra avoir un droit d'action. On assiste peut-être, en réalité, au-delà du droit de l'environnement, à une forme d'émergence du droit du vivant.
Matrioshka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Notre Matrioshka aujourd'hui, c'est François Molins, le procureur général près la Cour de cassation, qui, après 46 ans de bons et loyaux services auprès de la justice, prend sa retraite. Lui qui nous a accompagnés pendant des périodes douloureuses de l'histoire de France, pendant les attentats, que ce soit en 2012 avec l'affaire Mera, que ce soit en 2015 avec les attentats de Charlie Hebdo, les tueries du Bataclan ou de l'Est de Paris, ou même en 2016, le 14 juillet à Nice, il restera, François Molins, cette grande figure de l'antiterrorisme en France, mais pas seulement. Il restera aussi celui qui a accompagné des faits divers qui ont vraiment marqué notre société. Ça a été le cas, par exemple, lors de la chute des tribunes au stade de Furiani ou lors des émeutes de 2005 après le décès de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois. Mais il restera aussi celui qui a su défendre l'autorité judiciaire, souvent critiquée, souvent malmenée. Alors aujourd'hui, alors qu'il prend sa retraite, il prend surtout son temps pour Matrioshka de nous expliquer ce qu'il a envie de transmettre aux générations futures face aux défis qui se posent à la justice et à notre société. Et parmi les enjeux fondamentaux qu'il pointe du doigt, il y a la place de l'environnement dans la justice, la place de la justice face à la radicalisation de la société, mais aussi, de toute urgence, le rôle de la justice pour sauver notre régime établi, pourtant fragile, la démocratie.
Une démocratie qui évoluerait et qui adopterait pour se défendre des instruments qui relèvent de la dictature ou de tout ce que vous imaginez, ben je pense que c'est une démocratie qui aurait perdu, hein, et qui disparaîtrait assez rapidement.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent que la démocratie est en danger ?
Oui, certainement. Oui, oui, il y a un certain nombre de sujets d'inquiétude. Et la démocratie est d'autant plus en danger qu'on entend des discours, moi que j'aurais jamais imaginé entendre et que j'entendais pas il y a 30 ans, sur la séparation des pouvoirs, et des discours aussi qui finalement reviennent à faire du juge un ennemi de la démocratie en mettant en cause sa légitimité.
Expliquez-moi ce que vous racontez.
C'est le discours qui consiste à dire que la seule légitimité, c'est celle du suffrage universel, et que les juges n'étant pas élus, les seuls qui sont légitimes, c'est effectivement les représentants de la nation, donc les gens du Parlement.
Ça raconte quoi, d'après vous ?
Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que c'est un non-sens d'opposer le juge à la démocratie. C'est oublier d'abord son office. Hein. C'est vrai que le juge, il n'est pas élu, hein, mais bon, que je sache, je dis en riant, les commissaires de police non plus, hein, personne ne va les critiquer. Et le juge, en réalité, il a un office qui a beaucoup évolué, hein, du temps de Montesquieu, c'est le juge, la bouche de la loi, donc il appliquait la loi, il l'interprétait. Et aujourd'hui, le juge, il a vu son travail se compliquer, et il se trouve finalement en situation d'empêchement de l'application de la loi. Alors, je précise ce que je veux dire. Le juge, aujourd'hui, se trouve au carrefour de normes qui vont devoir s'articuler et qui va devoir appliquer ou pas appliquer entre les décrets, la loi. Au-dessus de la loi, il y a la Constitution. Et puis encore au-dessus, il y a les traités internationaux. Donc il a effectivement aujourd'hui les moyens, au travers de l'office qui est le sien, de bloquer par exemple l'application d'un texte de loi, parce que ce texte en réalité pourrait s'avérer contraire par exemple à la Convention européenne des droits de l'homme ou au traité fondateur de l'Union européenne. Mais ce faisant, il fait que ce qu'on lui a demandé de faire, hein. C'est pas le juge qui a fait la Constitution, c'est pas le juge qui a décidé que les traités internationaux avaient une valeur supérieure à la loi. Et c'est pas le juge qui a ratifié non plus les traités internationaux, c'est le Parlement. Donc le juge, en fait, il fait que son travail.
Est-ce que ce sont des critiques de paroles de certains, ou est-ce que ça raconte autre chose de l'évolution de la société aujourd'hui qui se questionne ou qui se perd ?
C'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel il y a une véritable judiciarisation de la vie publique. Le juge se mêle de plus en plus de choses, partout, tout le temps, dans le cadre de l'office qu'on lui a donné. Donc ça renvoie peut-être au bout du compte à une société qui s'interroge de plus en plus dans laquelle il y a peut-être de plus en plus de malaise, hein, parce que elle sait peut-être plus trop comment se situer. Mais là encore, aller au bout de ce discours, ça va très loin. Hein. Ça remettra en cause les fondements de l'Union européenne, hein, et les fondements de l'État de droit.
C'est pas votre discours ou c'est votre discours ? C'est le genre de choses que sur lesquelles vous pouvez vous interroger ?
C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, hein, bien sûr, sur lequel j'ai des interrogations. Mais je pense que c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement dangereux. Hein. On a vu la Grande-Bretagne déjà sortir de l'Union européenne parce qu'elle en avait assez d'appliquer la Convention européenne.
Ça a joué.
Ça en fait partie, ça a joué. Et
ce sont des injonctions contradictoires permanentes
finalement,
on perd le sens.
Donc ça donne effectivement l'impression d'une société qui est en quête de sens et qui ne sait plus trop où elle en est. Et c'est pour ça que je pense que c'est dangereux.
Si notre société est en quête de sens, c'est forcément lié à ces injonctions contradictoires, mais c'est aussi peut-être lié à notre incapacité de nous projeter dans le futur. En cause, les défis environnementaux. Et d'ailleurs, François Molins n'est pas totalement étranger aux droits des générations futures comme aux droits de la Terre. Il a d'ailleurs présidé un groupe de travail relatif au droit pénal de l'environnement, une réflexion fondamentale pour demain.
Je trouve que sur le droit de l'environnement, on affiche depuis un certain nombre d'années un certain nombre d'ambitions qui sont absolument pas pris en compte dans la réalité. Donc il y a un décalage énorme qui voudrait faire apparaître en réalité qu'on s'occupe de tout ça, mais la réalité est très différente. La majorité des infractions constatées et traitées en matière de droit de l'environnement, elles sont classées sans suite, elles passent par des alternatives aux poursuites et des rappels à la loi. Et le rôle du juge, c'est peanuts, quoi. Il y a très très peu de dossiers qui viennent devant le juge. Alors que le juge, je pense, aurait une véritable action à jouer, un vrai rôle à jouer en matière environnementale.
Vous pensez que les choses vont changer ?
Moi, je rêve, je m'en vais, hein, mais je rêve le jour où on aura davantage de moyens à ce qu'il y ait véritablement des postes créés pour juger les atteintes au droit pénal à l'environnement. Je rêve d'un vrai rôle du juge et je rêve véritablement d'un procureur qui sera en charge d'un ordre public environnemental dans lequel il pourra avoir un droit d'action. Donc un rôle du procureur qui pourrait véritablement, en lien avec les associations, avoir un droit d'action, faire des actions en référé pour faire cesser les dommages avant qu'ils soient irréversibles, et puis avoir une politique pénale qui soit beaucoup plus offensive et qui permette de juger plus, plus vite et mieux. On assiste peut-être en réalité au-delà du droit de l'environnement. Certains commencent à se demander s'il n'y a pas une forme d'émergence du droit du vivant qui effectivement conduirait à donner des nouveaux droits à la nature qu'elle n'a pas aujourd'hui pour mieux la protéger en assurant un meilleur équilibre entre les hommes, les animaux et la nature. Mais je pense que c'est déjà en l'air du temps. Quand on parle, par exemple, de donner la personnalité juridique à la Seine, c'est un exemple qui montre effectivement... Donc je pense que c'est un sujet qui a un bel avenir. Il y a un vrai enjeu pour la justice quant au rôle qu'elle doit tenir. Parce que je pense qu'elle doit avoir un vrai rôle là-dedans.
C'est le sens de l'histoire ?
Oui, puis je pense que ça le sera de plus en plus.
La justice a beaucoup changé en 46 ans ?
Ah oui. Oui, vraiment beaucoup. La justice a énormément changé, le métier aussi. La justice, si vous voulez, si on devait résumer, elle a vu ses parts de marché et ses compétences s'accroître en permanence, ce qui, quelque part, est bien parce que c'est toujours mieux de voir réguler des rapports sociaux par le droit et par le juge que de les voir réguler par la violence. Donc ce côté-là, il faut s'en féliciter. Le côté plus négatif, c'est que la justice a hérité régulièrement d'un tas de nouvelles compétences sans que ce soit accompagné des moyens nécessaires et suffisants. Donc en réalité, on est rentré dans une période où, ayant de plus en plus de choses à faire, on les a peut-être faites un peu moins bien, et tout ça a été aggravé, donc insuffisance de moyens, par un état d'esprit qui, au bout du compte, a fait peut-être pas mal de mal à l'institution. C'est le début des années 2000, à partir de 2005-2006, ce qu'on appelait la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, où on est rentré dans une approche des choses qui a conduit en fait à une approche assez productiviste. Et ça, c'est pas finalement quelque chose de conforme à l'esprit de la justice et qui n'a pas été très bien pour l'esprit des décisions. Il y a toujours une sorte de défiance des citoyens vis-à-vis de la justice. De toute façon, la justice est comme la médecine, hein. Il vaut mieux pas en avoir besoin. Quand on en a besoin, c'est plus ou moins bien, mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir s'en passer.
C'est vous qui dites ça.
Donc, ça, c'est certain.
Et ça, il y a 46 ans, vous l'auriez dit aussi.
Ah oui, oui, aussi. Moi, j'ai toujours pensé qu'un mauvais arrangement valait bien qu'un bon procès. C'est un proverbe que j'ai appris à l'université et je pense qu'il a toujours été très actuel. Donc, tout ça a fait qu'il y a une défiance qui s'est marquée. Il y a effectivement cette diminution de la collégialité, de plus en plus de magistrats qui travaillent tout seuls. Alors ça, ce n'est pas le cas des parquets qui sont toujours en équipe, mais moins on travaille en collégialité, plus la qualité de la décision peut être affectée. Et comme il y avait beaucoup de choses à faire, on a peut-être pas été en mesure de consacrer suffisamment de temps au justiciable. Le justiciable, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut une justice qui soit accessible, il veut une justice qui rende des décisions dans des délais raisonnables, et puis surtout, il veut avoir le sentiment d'être écouté, et il veut avoir une décision qui soit rendue, qui soit bien motivée, qui soit claire, qui soit accessible, et qui lui fasse comprendre pourquoi il a gagné et pourquoi il a perdu.
Mais ce que j'entends au travers de ce que vous dites aussi, c'est que la place de la justice est encore plus grande dans la société.
En tout cas, elle est remise en cause aujourd'hui, la place de la justice. Hein. On a peut-être trop tendance, et ça moi je le regrette, hein, c'est une inquiétude d'ailleurs pour l'avenir, on a trop tendance à considérer la justice comme un service public ordinaire. La justice n'est pas un service public ordinaire, c'est un service public à valeur constitutionnelle qui s'intègre dans la séparation des pouvoirs, donc ce n'est pas une administration comme les autres. Et ça, il faut impérativement que nos responsables politiques le prennent en compte. Donc, ce phénomène, moi je l'ai vu ces dernières années et je trouve qu'il est assez inquiétant.
Donc ça c'est par rapport aux politiques publiques, oui. Mais d'une certaine façon, si on regarde par rapport aux injonctions de la société dans sa globalité, oui. On la voit de plus en plus victimaire,
oui.
Donc forcément avec un besoin de justice.
Oui.
Ça par exemple, vous voyez comment non, cette évolution-là
Ça on peut l'entendre, il y a un côté négatif à travers ces sondages qui signent la défiance des citoyens vis-à-vis de la justice. Mais le degré de défiance est aussi positif parce que ça montre bien aussi que les citoyens, ils ont besoin de nous et qu'ils attendent beaucoup de l'institution. Donc l'enjeu, le défi, il est là.
Cette conscience de travailler pour un service public à valeur constitutionnelle, il a depuis près d'un demi-siècle. En tant que procureur, François Molins a toujours voulu travailler, œuvrer pour l'ordre public. Mais l'équilibre est souvent complexe quand il y a un drame. L'actualité s'accélère, les passions se déchaînent. C'est le cas par exemple lors des émeutes de 2005. Il était en place, François Molins. On a vu, nous, de l'extérieur, les banlieues s'embraser à la suite du décès de Zied Ebouna. Mais à chaud, à l'intérieur, au moment où ça se passe, quelle a été sa lecture ? Il nous raconte.
C'est quelque chose de dramatique parce que au fond, ça n'aurait jamais dû arriver. Et ça signe en réalité le type de relation qu'il y a entre les jeunes et la police. Ce n'est pas normal que des jeunes qui n'ont rien fait, à la seule vue d'uniforme, prennent la fuite. Il y a un problème.
Et vous, qu'est-ce que vous avez eu à faire dans ce temps-là ?
Ce qu'on a à faire, ben, quand on est procureur, dans ce cas-là, ben, c'est de trouver les organisations de son parquet pour faire face à l'événement. C'est-à-dire que, d'abord, bon, on n'est pas en charge de l'ordre public, hein, au sens, ça c'est le préfet et la police. Donc déjà, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de casse, qu'il n'y ait pas eu de mort dans les interventions de la police, parce que c'était quand même extrêmement chaud. Il y a des dizaines de lycées et de collèges qui ont été incendiés en Seine-Saint-Denis à cette époque. Hein. Le conseil de prud'homme et le tribunal d'instance à Bobigny. Enfin, donc, chaque nuit, des dizaines et des dizaines de gens interpellés par la police.
Tout s'embrasait.
Voilà, il faut se mettre en situation de gérer tout ça, puisque quand des gens sont interpellés pour avoir commis une infraction, c'est le procureur qui va apprécier la suite à donner. Donc, on a adapté nos dispositifs, on s'est rendu compte que la permanence téléphonique à domicile face à tout ça, ce n'était pas possible. Donc on a opté pour quelque chose qui était à l'époque assez révolutionnaire. On tenait la permanence téléphonique la nuit, dans les locaux de la Sûreté départementale, avec le chef de la Sûreté, et on était avec lui en permanence pour écouter les conversations radio, ce qui faisait qu'en réalité, on était avisé immédiatement des interpellations, et on pouvait du coup arbitrer immédiatement ce qui devait relever de la garde à vue ou pas avec lui. Donc on était vraiment au cœur de l'événement, c'est même pas de la réactivité maximale, on était presque dans le proactif.
Et quand vous voyez toute cette jeunesse qui s'embrasait ouais. Comme ça, de cette façon-là, vous disiez quoi ? La société crie quelque chose ? Vous disiez ça va s'arrêter ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ben, ça signait le mal des banlieues. C'est toujours dans ces cas-là, ça vous renvoie à une forme de syndrome d'anxiété parce que vous êtes dans une spirale sans fin et vous vous demandez toujours combien de temps ça va durer, quand ça va s'arrêter, avec toujours la crainte du gros dégât quoi, humain.
Mars 2012, il y a l'affaire Mera,
ouais.
La tuerie à Toulouse. Il y a janvier 2015, les tueries ouais. de Charlie Hebdo. Le 13 novembre 2015, les attentats ouais. dans l'est de Paris. Donc vous, en tant que procureur de la République, qu'est-ce que vous dites que vous portez là, dans ce temps-là ?
Mais c'est un peu comme avec les banlieues, même si c'est différent. C'est des circonstances dans lesquelles on est confronté à des enjeux hors normes, qui sont tout à fait exceptionnels, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer.
Et on le pose comment l'enjeu ? C'est quoi l'enjeu ?
Ben, l'enjeu, là, à l'époque, ça peut être de retrouver des terroristes et de les neutraliser. Mais les enjeux, ils sont multiples sur un dossier terroriste, hein, parce qu'il faut diriger l'enquête. Donc c'est un enjeu considérable quand sur une enquête, vous avez un millier d'officiers de police judiciaire, ce qui était le cas des attentats de 2015. Mera, c'est des centaines d'officiers de police judiciaire. Donc une enquête menée par 800 ou 1000 OPJ, ce n'est pas une enquête qui est menée par un OPJ. Alors comment on fait dans ce cas-là ? Ben, on a appliqué une recette qui avait été conçue par mon prédécesseur à Paris, Jean-Claude Marin, mais qu'il n'avait jamais mis en œuvre. On a activé ce qu'on appelait la cellule de crise. C'est-à-dire que c'est tout l'avantage d'un parquet. À l'époque, la section antiterroriste, 7 ou 8 magistrats. Mais le parquet de Paris, c'était 130 personnes. Donc on a utilisé une liste de crises qu'on avait pour faire venir en renfort des collègues de toutes les sections qui avaient l'habitude de travailler sur le crime organisé, la délinquance écophile et les sections de permanence. Et avec ça, on a monté un dispositif de cellules de crise qui fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'on a tenu pendant 12 jours.
Donc il y a tous ces outils,
ouais.
Mais au cœur de l'homme, comment est-ce que vous arrivez à garder une sorte de lucidité ?
La lucidité, vous êtes obligé de l'avoir, de toute façon, parce que vous avez des choix à faire. Donc, quelle que soit l'émotion que vous ressentez, vous êtes obligé d'être dans un exercice très professionnel, le plus rigoureux possible. Et la lucidité, elle peut se manifester de façon très différente sur les personnalités. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on était tous sidérés, hein, ça c'est certain, par ce qu'on avait vu. On était complètement sidérés. On était aussi un peu dépassés par les enjeux. En réalité, on se rend compte qu'on a été transcendés par les enjeux, parce qu'on est arrivé à faire des choses qu'on n'avait jamais faites avant. Et mon office, en réalité, consistait à m'assurer que les choses marchaient bien. Et si elles marchaient pas suffisamment bien, à ce moment-là, j'intervenais pour recadrer. Et puis, je m'occupais aussi surtout des relations avec les partenaires extérieurs et le politique, pour qu'on nous laisse travailler tranquillement.
Ça, c'est pour vos équipes.
Ouais.
Et pour nous, le reste de la France, qu'est-ce que vous
avez dit ? On a communiqué parce qu'on sentait bien qu'il fallait tout expliquer.
Qu'est-ce qui vous guidait dans la façon dont vous vous adressiez pour essayer de rassurer les populations ?
Alors rassurer, on ne l'a pas fait pour ça au début, hein, on ne s'en est pas rendu compte, hein, honnêtement. Ouais. On s'est mis dans une optique d'en dire le plus possible, mais pas non plus en dire trop. Parce que dans ce genre de choses, en réalité, vous êtes confronté à un problème, c'est que la presse, elle est dans l'hystérie médiatique. C'est la course à l'échalote pour savoir quel média sortira l'information le premier. On ne s'est pas du tout inscrit dans la course à cette dynamique des médiatetés. On a toujours choisi et assumé le fait d'avoir un temps de recul, c'est-à-dire de renvoyer effectivement à l'organisation de ces conférences de presse qui venaient peut-être plus tard, qui peut-être reprenaient des éléments qui étaient déjà connus, mais qui avaient un élément qui, je pense, était très pédagogique. C'est d'abord que c'était la parole du procureur. Je pense qu'elle n'est pas décrédibilisée du tout. Elle a de la valeur et du poids, la parole d'un procureur aujourd'hui. Et l'exercice consistait effectivement à remettre les choses en ordre, en perspective, à raconter une histoire en y mettant ce qu'on pouvait raconter, sans trahir le secret des investigations et sans mettre à mal la dignité des victimes.
Oui, ce que vous dites, c'est que vous essayez de donner du sens.
Oui, oui, oui. On essayait toujours aussi de passer des messages. On parlait beaucoup des victimes. Hein? Donc on a toujours essayé de mettre dans les points presse de la compassion et de l'empathie pour les victimes. Ça, vous regardez toutes les conférences de presse chaque fois. Mais c'était vraiment une volonté de notre part, puis on le ressentait comme ça. Moi je crois beaucoup aux vertus de l'empathie dans ce type de message. Voilà. Donc il y a des façons de raconter.
Ça a apporté des compétences particulières, des enseignements particuliers à partager même.
En termes de compétences, c'est sûr que on a acquis à l'époque sur la gestion des attentats de 2015-2016 une expérience qu'on partage avec personne, hein, parce que Personne, je pense, n'a eu à ce degré-là, en tout cas en Europe. Il y a peut-être l'attentat de Bombay il y a plusieurs années. On n'avait jamais eu des attentats multisites comme ça. Hein. Moi, le soir du 13 novembre 2015, j'avais 10 scènes de crime. Hein. 10, c'est considérable. Hein.
Et là, cette idée de défendre les intérêts de la société,
oui, bien
c'est
sûr.
Ça qui vous anime. Comment est-ce que vous pensez ça? Qu'est-ce que vous vous dites, en fait?
On est quand même...
Quelle est votre philosophie limite à ce moment-là? En dehors de la question de l'émotion ou du droit, finalement, qu'est-ce que vous pensez?
Si vous voulez, là on est dans la mission globale du ministère public, hein, le procureur, il est en charge bien sûr la défense de l'ordre public. Hein. Donc en matière de terrorisme, on prend bien sûr peut-être compte encore plus qu'ailleurs de l'intérêt de cette mission, parce que le terrorisme, il est vraiment dirigé contre l'État. Hein. La finalité ultime, c'est effectivement de déstabiliser l'État et la puissance publique.
Mais alors, face à cet objectif clair, celui d'hommes qui souhaitent déstabiliser l'État et la puissance publique, quelles ressources faut-il avoir pour les en empêcher? Il y a le système, il y a les institutions, il y a le collectif, il y a des outils. Mais plus que ça, il y a des vertus qui sont structurantes et fondatrices.
Moi, je suis quelqu'un déjà qui est très résilient. C'est-à-dire qu'on a tous des ennuis dans la vie, mais moi, plus on me tape dessus, et plus je vais me redresser.
C'est un réflexe?
Oui, voilà, les ennuis et les embêtements que je peux avoir, je rebondis dessus. J'ai toujours fait comme ça. Alors, c'est une chance que j'ai. Hein. Je ne suis pas dans le genre accablé, et j'essaie toujours, si j'ai une épreuve, eh ben, j'essaie de la surmonter, et en fait, ça me revigore.
Pour vous, les vertus qui sont nécessaires, qui sont les vôtres, qui ont permis aussi de tenir face à de telles pressions, de tels enjeux de société
Les vertus du magistrat.
Oui, les vôtres.
Donc la résilience, du courage, parce que je pense du courage, quand on est magistrat, il en faut, parce qu'on prend des décisions qui ne sont pas forcément populaires. L'écoute, c'est certain, la tolérance. Et bon, il faut aimer travailler aussi, parce que je pense que dans la justice, on en a beaucoup, donc il vaut mieux savoir travailler bien et vite, c'est encore mieux.
Et le rapport à la responsabilité?
Alors, il y a deux terrains sur la responsabilité. Il y a la responsabilité, on va dire, professionnelle, juridique, et puis après, il y a la responsabilité morale.
Voilà.
Sur le plan de la responsabilité juridique, hein, il y a des mécanismes compliqués, soit de prise à partie, soit de responsabilité de l'État si vous avez fait une faute lourde. Mais au bout du compte, il y a un système d'ailleurs qui est beaucoup contesté par les politiques. Je compte plus le nombre de politiques moi, qui sont venus me dire « mais en fait, c'est pas normal, un chirurgien qui oublie une compresse dans le ventre d'un malade qu'il a opéré, il est responsable, il va être condamné. Un magistrat qui fait une erreur, il ne le sera pas. » Oui, c'est vrai, mais c'est normal. Parce qu'il faut s'assurer que le magistrat va exercer son office sans crainte de pression extérieure qui pourrait nuire à son impartialité, à son indépendance et à sa sérénité. Un juge qui travaillerait ou un procureur qui travaillait sous la pression permanente de gens qui veulent qu'il fasse ceci ou qu'il fasse ça ou qui crée une peur qu'il fasse mal, je pense qu'il ne travaillerait pas bien. Donc c'est pour ça qu'en réalité, j'aime pas trop ce mot-là, mais l'acte juridictionnel, il est sanctuarisé. C'est-à-dire qu'un juge qui fait une erreur dans une décision, eh ben, soit, mais c'est pas forcément un sujet, parce qu'au-dessus du juge, ben, il y a la possibilité de faire un recours, la cause sera examinée en cause d'appel par un juge d'appel, et s'il a fait une erreur au premier degré, ben, le juge d'appel la corrigera. Et si le juge d'appel se trompe aussi, ben, il y a une cour de cassation au sommet qui regardera si le droit a été bien appliqué.
Alors la responsabilité morale.
Alors, à côté de ça, vous avez une responsabilité morale. Donc c'est pour ça qu'il faut sanctuariser l'acte juridictionnel. Hein. Je pense que c'est consubstantiel à l'esprit du travail du juge. C'est pareil dans tous les pays. Mais je pense que quand on est magistrat, on a une responsabilité, on la sent par rapport à l'événement. Et on sent très bien la responsabilité morale qu'il peut y avoir quand on prend certaines décisions. Il y a des décisions qui sont très très dures à prendre humainement. Je pense que la plus dure, c'est peut-être de retirer un enfant à ses parents. Si je devais faire des degrés, ce n'est pas forcément d'envoyer quelqu'un en prison, même si c'est très grave, compte tenu des conséquences que ça aura. Même si le plus dur, ce n'est pas de retirer un enfant à sa mère et à son père. Quand on fait des choses comme ça, on la mesure, la responsabilité. Hein.
La question de Matrioshka, c'est toujours qu'est-ce que vous voulez transmettre? Bon, alors évidemment, vous en avez dit déjà beaucoup, mais si je vous pose la question, au travers de tout ce que vous avez pu accompagner, ces pages de l'histoire que vous avez au fur et à mesure tournées, cette évolution de la société que vous avez vue, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui que vous voulez transmettre à nos enfants
Certainement, on va dire une forme de vision sur la justice, sur ce qu'elle devrait être, hein, et sur les valeurs qui doivent l'animer. Hein. Je n'ai sûrement pas été parfait, moi, dans tout ce que j'ai fait, mais essayer de transmettre un certain nombre de valeurs auxquelles je crois, et qu'il faut surtout pas perdre, si on veut que les choses fonctionnent correctement. Essayer de transmettre des partages de valeurs sur l'importance du respect de l'état de droit, ça certainement aussi. Et puis essayer de faire partager ma vision des choses sur la place qui doit être celle de la justice dans la société, ça certainement. Et puis après, alors là, il y a des choses plus terre à terre. Hein. C'est la dimension partage de toutes les expériences que j'ai eues. Je pense que ça peut bénéficier à des jeunes magistrats, hein, et à d'autres.
Justement, les jeunes magistrats, vous leur dites quoi ?
Ben, c'est de pouvoir croire à certaines valeurs et puis garder sa capacité d'indignation. Je pense que le jour où on ne s'indigne plus, l'idéalisme, eh ben, il a disparu depuis longtemps. Moi, c'est un truc que j'ai toujours gardé, la capacité d'indignation. J'ai toujours continué à être indigné et révolté par certaines injustices, mais aussi certains mauvais fonctionnements. Donc c'est vrai que je m'indigne aussi facilement, peut-être même plus que quand j'ai commencé, finalement.
Vous avez appris à être digne au début et puis vous indigner.
Voilà.
C'est ça ?
Mais c'est important, la capacité d'émerveillement, mais aussi la capacité d'indignation. Et je pense que c'est...
Et demain, vous allez faire quoi ? Vous allez continuer plus à vous indigner ou alors vous allez continuer à vous émerveiller tranquillement ?
Quand je m'indignerai, je continuerai à le dire. Hein. Je vais garder mon compte Twitter, ça c'est sûr. Moi, j'entends bien garder ma liberté de parole et être présent parce que je crois en ce que j'ai fait pendant 46 ans et c'est pas parce que je pars à la retraite, que je changerai de centre d'intérêt. Donc je continuerai toujours à m'intéresser à la justice en général. Si j'ai des choses à dire, j'ai bien l'intention de les dire. Ce que j'aimerais, c'est avoir une troisième vie et m'inscrire dans une dynamique transmettre et partager, en faisant des choses différentes, mais qui tournent effectivement autour de cette matrice transmettre, partager.
Eh bien moi, je crois qu'on va vous suivre, François Molins, dans cette troisième vie, parce que les 50 ans que vous venez de partager avec nous, au service de la justice française, sont absolument passionnants et montrent à quel point chacun peut porter sa pierre à l'édifice pour accompagner les transformations de notre société et penser aux générations futures. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo de Matrioshka. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de notre collection, toujours à la rencontre de celles et ceux qui veulent transmettre à nos enfants face aux défis qui se posent. N'hésitez pas à partager nos contenus sur les réseaux sociaux, partagez aussi avec vos proches qui n'ont pas les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel opus de la collection Matrioshka. Moi je vous dis à très vite, salut. Matrioshka.